Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
L'un des plus grands défis dans cette vie, selon moi, c'est de réussir à avoir le regard juste, adéquat, éclairé sur soi-même, sur les autres et sur son environnement. L'une des choses les plus difficiles à faire, c'est de se regarder correctement, de regarder les autres adéquatement et d'avoir le regard éclairé sur son environnement. Les textes anciens nous raconte la rencontre, bien plus, je dirais, la conversation entre un jeune homme et un esprit. Entre un jeune homme et un esprit, un être immatériel, mais bien réel. Vous prenez Jérémie 1, 11 à 12. Je lis. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Pour que vous compreniez bien ce qui est en train de se passer, Jérémie est en train de discuter avec quelqu'un qu'on ne voit pas. Ce n'est pas un être humain, mais cet être qui n'a pas de corps physique comme le nôtre parle et Jérémie l'entend. Et cet être lui dit, qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, je vois. Et je pense que l'une des choses à laquelle tu dois aspirer dans la vie, c'est de voir. Pas juste de regarder, mais de voir. Jésus est dans une réunion, dans un domicile. La femme reconnue dans la ville comme étant une prostituée rentre dans la maison de Simon le lépreux avec un vase. Elle verse le parfum sur Jésus, elle essuie ses pieds avec ses cheveux. Et les gens murmurent, aucun son ne sort de leur bouche, mais les pensées de leur cœur résonnent tellement que Jésus les entend, se tourne vers son hôte et il lui dit, « Simon, vois-tu cette femme ?» Ça veut dire que cette femme, humainement, on la voit bien. Mais quand on la regarde, les gens ne voient qu'une prostituée. Jésus demande à Simon, est-ce que tu vois cette femme? Pas est-ce que tu la regardes, puisqu'ils l'ont vue rentrer. Et Jésus révèle par la suite que ce que cette femme fait n'a rien à voir avec ce qu'on connaît d'elle. Il dit, je suis venu, tu ne m'as pas proposé de l'eau pour laver mes pieds. Cette femme a essuyé mes pieds avec ses larmes. Et il dit, l'acte qu'elle vient de poser, la fait rentrer dans l'éternité. Partout où on parlera de l'évangile, on parlera d'elle. Humainement, dans le temps et l'espace dans lequel elle était, l'action qu'elle a posée n'a pas fait changer d'avis sur sa personne. Les gens qui la regardaient la voyait toujours comme une prostituée malgré l'action spirituelle qu'elle venait de poser. Parce que les choses de l'esprit ne s'évaluent pas par les cinq sens. Il y a donc d'autres sens qui sont nécessaires pour pouvoir déterminer que ce qui se passe maintenant, c'est un acte spirituel. Ce qui se passe maintenant fait sortir la personne qui pose l'action du monde des formes dans le monde de l'invisible. Cet esprit parle à Jérémie et lui dit : Que vois-tu ? Jérémie dit : Je vois. L'une de tes prières dans la vie, c'est que Dieu te donne la capacité de voir. Tu dois aspirer à voir ce que on ne voit pas, ce que l'œil ne voit pas. Tu dois aspirer à entendre ce que le commun des mortels n'entend pas. Tu dois aspirer à pouvoir discerner ce que les gens considèrent comme étant banal. Le type d'atmosphère qui est présente ce jour-là ne ressemble pas à l'atmosphère où tout le monde pleure, où les gens reconnaissent que la gloire de Dieu est là. Parce qu'il n'y a pas de nuée, il n'y a pas d'ange qu'on voit, il n'y a pas de musique, c'est juste un repas. Mais sauf que Jésus, étant spirituel, dit que l'action qui vient d'être posée vient de sortir cette femme de l'anonymat et de la faire rentrer dans une notoriété spirituelle. Il associe sa vie à l'évangile. Il associe sa vie à la bonne nouvelle. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de cette femme. Il vient d'établir un lien indubitable, un lien qui ne peut pas être rompu entre un être humain et la parole de Dieu. Jérémie entend ces mots : Que vois-tu ? Et on lui répond par la suite : Tu as bien vu. Il est donc possible de regarder à quelqu'un ou à quelque chose, de bien voir ou de mal voir. Qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes ? Est-ce que tu te regardes encore ? Est-ce que la seule chose que tu vois de toi, c'est ton passé ? Est-ce que la seule chose que tu vois de toi, ce sont tes problèmes ? Est-ce que la seule chose que tu vois de toi, ce sont tes limitations ? Que vois-tu ? Que vois-tu quand tu regardes les gens qui t'entourent ? Que vois-tu quand tu regardes les gens qui vivent dans la même maison que toi ? Que vois-tu ? Que vois-tu quand tu regardes à ton environnement ? Que vois-tu ? C'est ce type de mystère que l'évangéliste Matthieu décrit lorsqu'il rapporte la discussion que ce jeune Galiléen a avec ceux qu'il appelle ses disciples. Ce sont les versets 13 à 19 de Matthieu 16. Les questions tournent d'abord autour de l'identité du jeune homme. Mais il y a un changement de paradigme. Tout à coup, Matthieu 16, 17. Tout à coup, il y a eu un changement de perception, de regard et même de réalité. Au début, quand Jésus parlait avec les disciples, c'était lui et ses disciples. Mais quand Simon prend la parole et dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus, ce jeune homme d'un peu moins de 33 ans, vient de se rendre compte que des esprits se sont joints à la conversation. Simon ne parle plus sur la base de son sang et de sa chair. Il y a des esprits qui sont rentrés dans la conversation. Vous devez refuser d'être charnel. Parce que être charnel, ce n'est pas être capable de reconnaître qu'on n'est plus deux. On se parle là, mais on n'est plus que nous deux. Quelqu'un d'autre vient de rentrer dans la réunion. Ce que tu viens de dire ne vient pas de ta chair, ne vient pas de ton sang. Tu as entendu un esprit. Simon a le sentiment qu'il parle de son propre chef, que ce qu'il dit est le fruit de sa réflexion. Mais Jésus lui dit: ce ne sont pas la chair ni le sang. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le ciel vient d'envahir la terre et tu ne le sais pas. Des esprits se sont joints à cette rencontre et tu ne le sais pas. Ce n'est plus une conversation banale, mais tu ne le sais pas. Jusqu'à présent, on échangeait juste. Mais des esprits viennent de rentrer dans la réunion et tu ne le sais pas. Jacob s'endort comme tu t'endors. Ce jour-là, il a fait un long voyage. Il s'est arrêté. Au moment où il s'endort, il se dit qu'il est dans un environnement neutre. C'est parce qu'il a un songe que Jacob, quand il se réveille, dit « C'est ici la porte des cieux. Dieu est en ce lieu et je ne le savais pas. » Écoutez-moi, vous devez prier et demander à Dieu la capacité de reconnaître quand vous êtes dans une terre simple et quand vous êtes rentré dans un lieu chargé. Vous devez demander à Dieu la capacité de vous révéler. Lorsque votre bureau a été chargé de quelque chose, lorsque votre véhicule a été chargé de quelque chose, lorsque vos enfants qui reviennent de l'école ne reviennent pas simples, ils reviennent avec des esprits qu'ils ont rencontrés avec un autre enfant que les parents ont chargé de quelque chose. Vous devez demander à Dieu la capacité de discerner quand des esprits se joignent à une rencontre, à une réunion, à quelque chose. Sinon, vous courez le risque de devenir victime de ce que vous ignorez. Le culte n'est pas un culte s'il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas de culte sans occulte. Ce qu'on fait le matin, on l'a travaillé la nuit. Sinon, ce n'est qu'un rassemblement humain. Il doit y avoir quelque chose qui t'emmène à réaliser que la vie n'est pas simple. Ce n'est pas qui veut peu. La réussite n'est pas à celui qui est agile ou qui court vite. Le pain n'est pas aux sages. L'argent n'est pas aux intelligents. Il y a des renforts spirituels que les gens qui réussissent dans la vie ont. Sinon tu aurais réussi depuis, sinon tu serais stable depuis. Il y a quelque chose qui te combat, mais que tu ne vois pas. On programme une mort et on déprogramme une mort. On programme une fausse couche et on déprogramme une fausse couche. Jusqu'à quand vas-tu être charnel? Jusqu'à quand vas-tu considérer que la vie c'est seulement ce qu'on touche? C'est seulement ce qu'on voit. Quelqu'un s'est levé le matin se disant qu'il allait vivre sa vie comme tout le monde, comme tous les autres jours. Mais la nuit, quelqu'un avait déjà programmé sa mort. L'accident qu'il a, dans le visible, c'est un accident. Mais dans l'occulte, c'est un meurtre. Quelqu'un est monté dans un taxi, se disant qu'il allait d'un point A à un point B. Un camion passe à côté de lui. La cargaison du camion descend et tombe sur le taxi. Tous ceux qui sont dans le taxi meurent. Mais la cible de l'attaque, c'était un jeune homme. Jonas est dans un bateau avec des gens qui vivent une vie normale. Ils sont en train de partir de Ninive pour aller à Tarsis. Ils sont en mouvement. Jonas prend le bateau parce qu'il fuit un esprit. Les gens qui sont dans le navire voyagent normalement. Ils sont en train, avec leur cargaison, d'aller à une destination. Mais parce que Jonas est monté dans le bateau, l'esprit qui en a après lui, lui dit « Je ne te lâcherai pas, même s'il faut que je renverse un navire. » Tu penses qu'on licencie quelqu'un comme ça? Tu penses que quelqu'un perd son travail comme ça? Tu penses qu'une relation se finit comme ça? Tu penses qu'un enfant meurt comme ça? Tu penses que quelqu'un vit ce qu'il vit simplement à cause de sa taille, de son âge ou de la couleur de sa peau? Non, il y a des tractations, il y a des manipulations spirituelles. Personne ne perd la tête comme ça. Ce n'est pas normal. Dieu ne nous a pas fabriqués pour devenir fous. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Bouscule la personne à côté de toi. Dis-lui, sors de la charnalité. Vous rentrez en relation comme ça. Parce que tu ne sais pas qui tu es. tu ne sais pas qui est l'autre. Il y a des gens qui ne marchent pas seuls. Vous dormez sur le même lit, vous n'êtes pas deux, vous êtes trois, vous êtes quatre, vous êtes cinq. Jésus est à table avec des gens. Jésus révèle que l'une des personnes à table va le trahir. Tout le monde entend la parole, tout le monde entend la même parole. Et le disciple que Jésus aimait pose la question, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Jésus dit, c'est écrit dans vos Bibles, Jésus dit, celui qui met avec moi la main dans le plat. La parole est sortie, tout le monde voit Judas mettre la main dans le plat, mais la parole est voilée. Quand Judas met la main dans le plat, le monsieur qui a mis la main dans le plat n'est pas le monsieur qui sort la main du plat. La Bible dit Satan entra en lui. Pour trahir Jésus, ce que Judas était ne suffisait pas. Il fallait une possession démoniaque. Il fallait qu'un esprit entre en lui. Toi, tu penses que les gens te trahissent simplement parce que leur cœur a changé. Tu perds la faveur des gens parce qu'il y a une manipulation spirituelle. Le cœur des gens se détourne de toi parce qu'il y a une manipulation spirituelle. Alors, quoi qu'étant un mot humain et utilisé par les contemporains de Christ, le mot ecclésia, c'est un mot grec utilisé par les contemporains de Jésus. Ça veut dire Jésus n'invente pas ce mot-là. Mais sauf que quand Jésus l'utilise, l'ecclésia à laquelle il fait référence n'est pas comme les autres ecclésias. L'ecclésia de Jésus n'est pas une invention des hommes. C'est une réalité spirituelle descendue du ciel. Avant qu'elle ne soit un bâtiment, un groupe ou une institution, ecclésia, c'est un mystère. Au risque de me répéter ce matin, je vais le redire quand même. Quand nous disons église, nous ne parlons pas d'un bâtiment ou juste d'un rassemblement humain. Nous parlons d'un rassemblement céleste. Une convergence de dimensions spirituelles. Où le visible et l'invisible se rencontrent dans le nom de Jésus-Christ. Quand on parle de l'église, voilà comment l'écrivain aux Hébreux. Parce que ses yeux sont ouverts. Parce qu'il est spirituel. Il dit l'église. L'église, ce n'est pas nous. Ce n'est pas juste ça l'église. Il dit vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. L'église. Quand vous venez à l'église, vous venez sur une montagne. Ça veut dire que là, vous n'avez pas le sentiment, mais nous sommes sur une montagne. De la cité du Dieu vivant. De la Jérusalem céleste. Il dit, en venant à l'église ou en nous rassemblant ce matin, nous sommes entourés de myriades d'anges. Nous sommes à l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Nous sommes là où se trouve Dieu, le juge de tous. Il n'y a pas que nous, il y a des esprits des justes parvenus à la perfection. Et il y a Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Ça veut dire que l'église, ça là, c'est pas juste nous. Même les saints qui sont morts sont là. Vous m'entendez ou vous m'entendez? Ça veut dire que cette réunion, l'église, le culte, est plus dangereuse qu'une cérémonie d'initiation. Quand ils se retrouvent pour initier les gens, ils font appel à des entités, à des esprits. Mais les esprits qui sont à l'église. Quand l'église se réunit, le ciel entre en convocation. Les anges se tiennent en adoration. Les saints glorifiés s'unissent à nos louanges. Le Saint-Esprit relie les vivants et les morts dans une même adoration du Christ vivant. C'est l'église. Mais pour toi, c'est si banal. C'est si neutre que ta vie ne change pas. Parce que ce que toi tu considères comme simplement un groupe qui chante, un homme qui parle bien, des gens qui sont vêtus, en réalité il y en a d'autres qui savent que cette réunion là est une réunion qui peut changer leur vie, qui peut modifier leur destinée. On est capable dans ce genre de moment de prendre des décrets. On est capable dans ce genre de moment de décréter et de déclarer. Et le monde visible s'accorde. L'église. Et c'est ce genre de réunion que toi tu sèches. C'est ce genre de réunion que tu considères, bon j'étais trop à l'église. C'est parce que tu ne réalises pas qu'est-ce que c'est l'église. Ce que tu vois ici-bas n'est que l'ombre visible d'une réalité invisible. Chaque culte est un rendez-vous entre Dieu et son peuple dans les deux dimensions. Pas juste la dimension visible. Nous ne sommes pas seulement nombreux, nous sommes entourés. Nous ne chantons pas seuls, le ciel chante avec nous. Nous ne prions pas seuls, le Saint-Esprit intercède en nous. Avec des soupirs ineffables. L'église n'est pas une association, elle est un organisme mystique, le corps vivant de Christ, dans lequel circule la vie du Père, le souffle de l'Esprit et la communion des saints à travers les âges. Chaque fois que nous nous rassemblons, nous touchons à un mystère. Le ciel et la terre s'embrassent. Le temps et l'éternité se croisent. Et l'homme devient participant de la nature divine. C'est dans ce genre de moment qu'on peut rentrer dans le passé de quelqu'un. Pas s'attaquer aux symptômes, mais s'attaquer à la cause. C'est dans ce genre de moment qu'on peut rentrer dans le futur de quelqu'un. Voir un accident, voir un mort et déprogrammer ce qui avait été programmé. C'est ça l'église. L'église, ce n'est pas un lieu qu'on fréquente, c'est un mystère qu'on habite. L'église, c'est le sanctuaire du ciel planté au milieu des hommes. Le texte de Actes 2, 42 nous révèle quatre piliers spirituels par lesquels l'Esprit de Christ, au travers des apôtres, bâtit l'église, bâtie ecclésia. Répète après moi, dit l'enseignement des apôtres. Je ne veux pas développer les quatre piliers à cause du temps. J'ai pris beaucoup de temps pour vous dire les choses que je voulais vous dire en introduction. Mais l'enseignement des apôtres, c'est la fondation doctrinale. Ça, c'est le point de vue intellectuel. Mais sauf que par l'enseignement, la Bible dit il envoya sa parole. Sa parole les guérit. Au commencement était la parole. Tout ce qui a été fait par elle. Ça veut dire que quand vous êtes enseigné, et je l'ai dit la dernière fois à un culte de jeudi, la plupart des gens veulent les déclarations prophétiques, veulent les prédications, veulent les moments où Dieu va te bénir, l'huile va couler. Ces choses-là sont bien pour reprogrammer, pour briser, pour prendre des décrets. Mais sauf que ce qui te bâtit, ce qui te fait grandir, c'est l'enseignement. Et donc, si tu n'es pas enseigné, tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir qui tu es en Christ, quels sont tes droits, quels sont tes devoirs, comment tu dois fonctionner dans cette nouvelle vie spirituelle. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement qui te permet de savoir quelle est la limite de pouvoir du diable, quels sont les démons qui peuvent attaquer ta destinée et comment tu prends le dessus. C'est l'enseignement qui te bâtit. L'enseignement des apôtres, un autre pilier. Sur la liste, on dit la fraction du pain. C'est la Sainte Cène. Ça veut dire que l'église des premiers jours, les premiers disciples, comprenaient que l'enseignement des apôtres n'était pas suffisant. Pour être l'église, pour être bâti dans la stature de Christ, pour devenir comme Christ, être enseigné ne suffit pas. Il faut manger. Et la communion, la Sainte Cène est un acte hautement mystique, hautement spirituel, qui fait que normalement, ce que tu manges, tu le deviens. Pas pas juste par l'enseignement qui change ta pensée. Soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est l'enseignement qui fait ça. Ton intelligence est renouvelée. Mais quand tu manges, ce n'est pas ton intelligence qui est renouvelée. Quand tu manges et que tu bois, ton corps change. Tu acquiers des capacités spirituelles que tu n'as pas. Tes péchés sont pardonnés. Les maladies peuvent disparaître quand tu manges. Toutes les spiritualités ont une table. Il n'y a pas de spiritualité sans table. Tous ceux qui sont en lien avec les esprits doivent manger avec les esprits. Mais toi, tu es chrétien. Tu ne manges jamais avec l'Esprit de Dieu. Tu ne manges pas avec Jésus. Et tu penses que tu es un chrétien fort. Parce que tu connais les versets. Parce que tu as été baptisé. Parce que tu as grandi dans l'église. Non! Celui qui ne mange pas sera mangé. À Saint-Saëns. Ça fait partie des piliers de l'église. Les prières. Alors, parmi les choses, c'est comme une chaise à quatre pieds. Tu as l'enseignement, tu as la fraction du pain, tu as les prières, mais toi, tu ne pries pas. Et écoutez-moi, là, on ne parle pas de prier chez soi, on parle de prier ensemble. On ne parle pas d'écouter un message sur YouTube, on parle d'être enseigné ensemble. Les quatre choses là, c'est ensemble. On ne peut pas, il y a des choses que vous ne vivrez pas, qu'on ne peut pas, il y a des endroits où on ne peut pas vous emmener dans la vie. Parce que vous n'êtes pas aux réunions de prière. La prière, c'est la respiration du chrétien. Un chrétien qui ne prie pas est en apnée. Le dernier pied, qui est le deuxième dans la liste, c'est la communion fraternelle. Ce mot, ces deux mots en français, communion fraternelle, en grec, c'est koinonia. K-O. I-N-O-N-I-A. Koinonia. Qu'est-ce que la koinonia? Le mot grec koinonia signifie partage, union. Je donne la liste pour vous, moi j'ai mes notes. Partage, union, communion, participation à une même vie. Koinonia, c'est le partage, c'est l'union, c'est la communion. C'est la participation à une même vie. Dans le Nouveau Testament, ce mot grec apparaît 20 fois environ. Et ça évoque toujours une participation profonde et un partage intime, selon la parole. Mets 1 Jean 1,3 s'il te plaît sur l'écran. Il faut que je vous montre 2-3 versets. 1 Jean 1,3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion, koinonia, avec nous. Or notre koinonia, et avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ça veut dire que en t'annonçant des choses, je te mets en communion avec ce avec quoi je suis en communion. Ça veut dire que les mots que vous entendez vous font rentrer en relation avec l'Esprit qui me les souffle. À chaque fois qu'on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Il ne disparaît que lorsque les cœurs se convertissent à un autre esprit. À un moment, Moïse n'est plus un homme. Moïse devient un esprit. Ce qu'il a enseigné, il l'a reçu de Dieu. Mais sauf que c'est devenu l'enseignement de Moïse. Moïse a dit dans la loi, toi que dis-tu? Ça veut dire que vous pouvez avoir entendu Dieu vous parler au travers de quelqu'un. Mais l'enseignement de la personne vous attache. L'enseignement de la personne vous garde prisonnier. Certains d'entre vous, vous êtes prisonniers d'un enseignement sur la délivrance que vous avez entendu, d'un livre que vous avez lu, prisonniers d'une doctrine qui vient de l'enfer, mais qui se cachait dans un livre chrétien.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. à la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.